ฮัลโหลคุณเก่ง
ครับผม
เบาวิทยุหน่อยได้ไหมครับโอ้โหสายหลุดไปแล้วอ่ะ
ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้อง
L'année 2048 verra la disparition totale des derniers poissons de cette planète. À partir de 2048, les mers et les océans du globe seront vides, plus un seul poisson que des déchets. La planète bleue, l'actualité à venir, les musiques du monde de demain. Après des années de blackout imposées par les militaires, on est en train de faire des progrès immenses dans la compréhension du langage d'autres espèces, notamment celui de nos cousins les dauphins. Non que les militaires aient levé le secret défense, mais parce qu'ils sont débordés par les chercheurs, les universitaires, qui disposent aujourd'hui d'une armada de nouveaux outils. Intelligence artificielle, algorithmes et big data, vous allez voir, c'est passionnant. Simultanément, depuis 25 ans, une idée nouvelle se développe, l'antispécisme. Ne plus considérer l'homme comme le sommet de la pyramide du vivant, mais comme une espèce parmi d'autres. C'est une révolution qui ne s'est pas encore produite, qui mûrit peu à peu, progresse dans les consciences et réunit théoriciens et activistes comme l'antiracisme ou l'antisexisme, mais en version plus large. À Pékin, nous allons réviser un principe vieux comme la démocratie, le rideau de fumée. Alors que le continent entier était asséché pour préparer les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'ont fait les autorités chinoises pour enfumer les télés du monde entier? Elles ont planté des tulipes et convoqué la presse, et ça a marché. Magique, non? Nous allons voir que le syndrome de la tulipe est plus que jamais d'actualité. Juste après, nous allons découvrir la BD du moment, un album étourdissant, mélange inédit de philosophie, d'écologie, d'érotisme et de science-fiction. Alléchant, non? Et nous finirons ce tour du monde avec l'un des plus beaux albums de la saison, la cyber-country ethnoplanante de Moon Go Go, un ravissement aux consonances coréennes. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Lyon à Las Palmas, d'Islande aux îles Féroé, de Berlin à Shanghai, de Stockholm à Oslo, de Paris au Mali via la Corée. Générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
Thank you.
C'était le titre de son film, réalisé avec Louis Malle, Le Monde du Silence. Tout le monde s'est fourvoyé avec ce film qui a décroché la Palme d'Or à Cannes en 1956. Car s'il est un monde qui n'est pas silencieux, c'est bien le monde sous-marin. Chant des baleines, cliquetis des cachalots, sifflement des dauphins, raclement d'écrevisses en migration sur les fonds marins. Ça fait maintenant plus de 70 années que des chercheurs essaient de décrypter le langage des cétacés. On les appelle les zoosémioticiens, au croisement de la zoologie et de la dialectologie. Le plus célèbre d'entre eux était le neurophysiologiste américain John Lilly, dont je vous ai souvent parlé ici sur la planète bleue, puisque j'ai eu le privilège d'être l'un des rares journalistes européens à le rencontrer. Mais ses recherches ont été plombées par le sceau du secret défense avant même la fin des années 60. Évidemment, ça n'a pas aidé à leur développement. Mais le secret défense est débordé par les chercheurs, les universitaires, l'intelligence artificielle, les algorithmes et les big data. Grâce à cette nouvelle discipline, la zoosémiotique, les éthologues montrent que les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Ceci sous-tend que nous ne sommes pas les seuls à utiliser un langage évolué, élaboré, d'où cet intérêt depuis des décennies pour une communication interespèce. La difficulté principale ne vient pas du tout de là où on l'imaginait. La difficulté principale vient du fait que dans une espèce donnée, il existe souvent plusieurs dialectes, plusieurs langues, ce qui démultiplie la complexité du travail des éthologues. Compte tenu du nombre d'espèces sur cette planète, nous avons autant de chances de finir par comprendre tous les animaux que d'entrer en contact avec l'ensemble des extraterrestres de l'univers. En outre, nous sommes démunis. La première capacité indispensable pour espérer communiquer avec une autre espèce est peut-être l'humilité, qui n'est pas vraiment la qualité première du primate humain, vous en conviendrez. Nous sommes dans la situation de la linguiste du film « Premier contact » de Denis Villeneuve. Non seulement nous ne comprenons rien aux sons émis par les dauphins et les baleines, mais nous n'avons pas la moindre idée de leurs processus mentaux. Pourtant, depuis 2 ou 3 ans, les choses s'accélèrent grâce à la passion de quelques chercheurs et à la panoplie high-tech dorénavant disponible. Intelligence artificielle, algorithmes et big data moulinent désormais sous la surface. En fait, les intelligences artificielles se comportent comme un étudiant Erasmus en pays étranger. Sans jamais avoir suivi le moindre cours, en immersion complète, elles tâchent d'apprendre la langue des animaux. Des progrès énormes sont faits en Russie, en France, en Suède. Au point que d'ici moins de 5 ans, on pourrait commencer à comprendre une partie du langage des dauphins. Chez les baleines à bosse, des chercheurs découvrent, derrière leur langage, multiplexé à leur langage, une façon d'entrer en transe. Et là, c'est très intéressant parce qu'on revient aux intuitions géniales de John Lilly, le chercheur qui apprenait l'anglais aux dauphins, également connu pour avoir inventé le caisson et isolation sensorielle. Lilly considérait que le dauphin est en état de méditation quasi permanent. Si vous voulez en savoir plus, voyez le livre formidable de François Sarano, Le retour de Moby Dick, aux éditions Actes Sud. le savez, sur la planète bleue, quand on vous parle d'un bouquin, ce n'est ni pour faire la promo d'un tel, ni pour relater l'actualité du monde de l'édition. Quand la planète bleue met en avant un livre, c'est parce que ce bouquin est fondamental, urgent. Le livre du moment, c'est « La révolution antispéciste », écrit par un collectif de chargés de recherche, philosophes des sciences, historiens, scientifiques diplômés en physique nucléaire, ingénieurs informatiques, docteurs en astrophysique. C'est du lourd. La révolution dont il est question ici n'a eu lieu encore nulle part. Mais depuis quelques années, on l'évoque de plus en plus, on l'appelle de ses voeux, on la réclame, on l'espère. Certains la préparent. On connaissait depuis bien longtemps les militants antiracistes, les militantes antisexistes, voici qu'apparaissent dorénavant les militants antispécistes, ceux qui réclament une société dans laquelle l'exploitation des animaux aurait disparu, une société où l'homme n'est pas considéré comme au sommet de la pyramide du vivant, mais comme une espèce parmi d'autres. Cette idée nouvelle rencontre de nombreuses résistances, notamment en termes de profit, et ne progresse que lentement. Mais quand même, le spécisme, cette discrimination fondée sur l'espèce, cette injustice, ce funeste préjugé, cette méprise philosophique, voit peu à peu se dresser contre lui activistes et théoriciens. À partir du début des années 90, commencent à paraître les cahiers antispécistes, dont les meilleurs papiers sont réunis dans ce livre. C'est une remise en cause fondamentale des privilèges métaphysiques que l'humanité s'était jusque-là appropriés. N'aurions-nous pas quelques devoirs de justice envers ces milliards d'êtres qui peuplent l'univers avec nous ? L'antispécisme s'attaque également à notre vocabulaire, car notre langue courante a été façonnée par les bouffeurs de viande. Elle appelle animaux tous les animaux, sauf les humains, ce qui nous a habitués à deux erreurs. Notre langue met dans le même sac un gorille et une huître, par exemple, mais en revanche instaure une barrière définitive entre des êtres aussi proches que l'humain et le dauphin. Les activistes de L214 nous rappellent régulièrement que les vies en élevage sont des vies de misère. Chaque année, nous pêchons plus de 1000 milliards de poissons. Leurs morts sont effroyables. Les océans se vident. Notre agriculture ne sert plus à nourrir l'humanité, mais à nourrir les animaux que nous allons manger. Où est l'erreur ? La révolution antispéciste, sous la direction d'Yves Bonnardel, Thomas Le Pelletier et Pierre Sigler, au PUF. Thank you. 2008. Rappelez-vous, à l'approche des Jeux Olympiques, Pékin la Grise se transforme soudain en parc floral. Les autorités chinoises mettent le paquet en com et en marketing politique pour profiter au mieux des Jeux. Avant la cérémonie d'ouverture, 60 millions de fleurs olympiques sont plantées le long des avenues de la capitale pour tenter de camoufler aux yeux du monde les poussières de limon, les fumées d'usines, de charbon et de pots d'échappement des centaines de kilomètres d'embouteillage qui congestionnent quotidiennement la mégapole orientale. Des fleurs pour camoufler la pollution et les droits de l'homme bafoués, c'en est pathétique. Pourtant, les autorités chinoises en rajoutent encore. Une forêt olympique de 530 000 arbres adultes surgit de nulle part au nord de la ville. Dans les banlieues, des pépinières géantes ont été construites pour alimenter en fleurs coupées les différentes cérémonies retransmises par les télés du monde entier. Pékin, qui a promis des jeux écolos, embellit de jour en jour. Mais la campagne chinoise, déjà bien pelée, jaunit à vue d'œil, victime d'une sécheresse sans précédent. Avant même l'ouverture des Jeux, 2,5 millions de Chinois souffraient d'une pénurie d'eau, les nappes phréatiques étaient au plus bas à Pékin et Tianjin, la mégapole voisine. Une situation pour la moins alarmante, alors que des experts indépendants estiment à 30% la surconsommation d'eau pendant les JO. Heureusement, le bureau de la propagande dément. Tout est sous contrôle, rassure-toi étranger. Le site aquatique de Chunyi, au nord de la capitale, est un lac de 63 hectares où se déroulent les épreuves d'aviron et de canoë-kayak. Quelques années auparavant, c'était le lit d'une rivière asséchée. Comment ce lac a-t-il été rempli ? Mystère. Pour alimenter Pékin en eau, les provinces environnantes sont pompées. Mais ça ne suffit pas. Le fleuve jaune est détourné vers la capitale pendant 3 semaines, le temps de prélever 156 millions de mètres cubes. Les dizaines de milliers de paysans du coin, qui tiraient déjà la langue dans leur campagne poussiéreuse, ont évidemment été ravis. En fait, Pékin a asséché le continent. Nouvelles routes, nouveaux canaux pour drainer toujours plus d'eau vers les sites olympiques, siphonnant plusieurs rivières au passage. Des lacs disparaissent, des usines ferment, des paysans sont déplacés. Les défenseurs de l'environnement, à l'époque pas bien nombreux, dénoncent le détournement de l'eau potable des provinces pauvres pour assurer le luxe à Pékin. Les pénuries dramatiques se multiplient. Nombre d'experts non officiels ont parlé de ces jeux comme d'un désastre écologique, faisant suite au désastre humanitaire qu'avait déjà été leur préparation. Pour ceux qui n'oublient pas que la République populaire de Chine reste la première dictature de la planète, Reporters sans frontières édite alors une série de t-shirts évidemment noirs comme la démocratie chinoise, avec les anneaux olympiques remplacés par des bracelets de menottes. Le syndrome de la tulipe, c'est ça, la politique du rideau de fumée. Vous commettez tous les méfaits et vous invitez les médias pour l'inauguration du boulevard Fleury. Les télés du monde entier rappliquent et diffusent les images bucoliques. Les autorités chinoises n'ont évidemment pas inventé cette technique de com' imparable, elles l'ont apprise des démocraties occidentales.
Thank you.
Actuelle, une expression récente du syndrome de la tulipe est ce nouvel emballement pour une notion soi-disant universelle, l'entraide. Comme si le fait de débusquer ici ou là quelques beaux gestes suffisait à effacer les massacres, la cupidité et la haine globale régissant notre planète. Les discours bienveillants et soporifiques de Mathieu Ricard, Jean-Marie Pelt en son temps, ou de certains scientifiques, pourtant parfois brillants, rejoignent à leur manière la fraîcheur naïve de certains écolos, tels Pierre Rabhi ou la jolie Mélanie Laurent. Faire pousser des radis bio dans son jardin ou sur son balcon va-t-il rendre la vie des paysans chinois meilleure et celle des pêcheurs marocains qui n'ont plus aucun poisson à pêcher? Ou des Indiens expulsés par ceux qui fracturent les sous-sols. Tous ces bobos, soi-disant écolos, dont la générosité ne s'aventure guère au-delà de leur nombril, quelle réponse apporte-t-il à l'effondrement de la biodiversité? Si la situation n'était si dramatique, ces nouveaux croyants de l'entraide prêteraient à rire. Tout ceci relève en fait de l'escroquerie intellectuelle et ne révèle qu'une relecture contemporaine de principes New Age éculés, une foi inébranlable, mystique, en des jours meilleurs, à chacun son doudou, son compagnon imaginaire, la religion, la foi, la croyance, l'écologie, une valeur humaine cachée, somptueuse, quasi magique, à découvrir entre les cellules de carbone. Ben voyons, construire un monde meilleur? Ça me rappelle La Haine, le fameux film de Mathieu Kassovitz. Vous vous rappelez? C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.